Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Ça y est, le voici venu, le moment de la rentrée, le moment aussi d'aborder la deuxième saison de Radio Scénique, votre émission sur la création théâtrale diffusée sur Allegre FM 93.1. Si je prononce le mot didascalie, vous allez ouvrir de gros yeux, au mieux me dire que ces mots agrémentent un texte de théâtre et qu'ils donnent des indications de mouvement ou d'intention des personnages. Par contre, si vous prononcez le mot didascalie devant Pierre Le Tessier, notre invité, il vous dira que ça n'est là qu'un très maigre aspect de la réalité de ce concept qui permet de traverser l'histoire du théâtre. Des didascalies, Pierre Le Tessier en a fait un livre, Les didascalies en question, paru récemment aux éditions Actes Sud Papier. Pierre Le Tessier, maître de conférences en études théâtrale à la Sorbonne, c'est donc dire s'il avait toute sa place aujourd'hui dans le studio de Radio Scénique. Il est notre invité de ce jour. Notre autre invité, c'est Jérôme Vaquier. Jérôme Vaquier, le retour, c'est un peu notre fil rouge, Jérôme Vaquier. Il était présent lors de notre première émission et le revoici en deuxième saison. Vous vous souvenez peut-être qu'il avait parlé de l'émergence de la Clairière, ce texte de Stéphane Gioberti qu'il met en scène avec les comédiens de sa compagnie Les Lucioles. Voici qu'il lève un coin du voile en nous annonçant que ce texte sera présenté pour la première fois en public à Paris le dimanche 14 septembre. Nous le recevrons en deuxième partie de cette émission. Pascal Dutertre, vous revoici également. Vous qui êtes architecte de métier, vous nous parlez des lieux de spectacle. Lors d'une dernière émission, vous nous aviez laissé au Moyen-Âge et voici que vous nous y renvoyez. Pourquoi donc ?
Bonjour Eric, eh bien la raison en est simple. Lors de notre précédente émission, que nos auditeurs peuvent retrouver en réécoute sur le site d'Allegre FM, j'avais abordé le théâtre religieux et donc aujourd'hui je vais traiter du théâtre profane. À nous donc les suppôts du Seigneur de la Coquille à Lyon ou la Mère Folle à Dijon.
On est impatient d'en savoir plus, Pascal. C'est en fin d'émission que nous vous retrouvons. Vous avez le programme ? Éteignez vos portables, on éteint les lumières. Voici venue une nouvelle édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Allegre FM.
Pierre Le Tessier, bonjour.
Bonjour.
Une didascalie, quand on cherche dans le gros dictionnaire du théâtre, dont j'ai oublié l'auteur, on lit, on peut appeler didascalie tout ce qui, dans le texte de théâtre, n'est pas dialogue, c'est-à-dire tout ce qui est du fait du scripteur directement. Le mot provient de l'Antiquité grecque. Dites-nous en plus, en quoi est-ce que ça justifiait la rédaction d'un livre de 140 pages, ces petits mots d'abord, ça remonte à quand ? C'est le terme de didascalie, la didascalie elle-même.
Alors, le terme de didascalie, pour désigner ces petits mots qui accompagnent le dialogue dans les textes de théâtre, ça remonte à une époque très récente, en fait. C'est Anne Huberfeld, donc qui est l'autrice de cette notice dans le dictionnaire de Michel Corvin.
De Michel Corvin, voilà exactement.
Parlez, qui, donc, dans les années 70-80, donc, a utilisé ce terme vraiment pour désigner ce qu'on appelle didascalie, c'est-à-dire tous ces petits mots qui accompagnent le dialogue, qui donnent forme au dialogue et qui lui donnent sens également. Mais c'est un mot qui vient de l'Antiquité grecque, bien sûr, même si dans l'Antiquité grecque, il désignait tout à fait autre chose.
Alors, dans l'Antiquité grecque, la seule chose qui était mentionnée, c'était le nom des personnages.
Même pas. En fait, ce qu'on appelait didascalie dans l'Antiquité grecque, c'était la liste des vainqueurs des concours. Parce que le théâtre, c'était des concours. Hein, on donnait des concours à Dionysos, notamment dans le cadre des grandes Dionysies. Et en fait, on dressait ensuite la liste des vainqueurs, voilà, premier auteur de tragédie, premier, etc. Voilà, pas premier auteur d'ailleurs, premier spectacle. Mais le texte, à l'époque, il n'y avait que ce qu'on appelle, nous, du dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas le nom du personnage, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que le dialogue qui était compact, et c'était des manuscrits qui étaient, en fait, illisibles, au sens où ils n'étaient pas destinés à la lecture. Le théâtre s'était fait uniquement pour être vu, et donné dans le cadre de ces concours, et c'était destiné à être lu uniquement par les professionnels, en fait, par les acteurs.
C'est l'une de vos thèses, enfin c'est votre thèse, c'est que le théâtre ça se joue mais ça se lit aussi. Et à partir du moment où, on va un petit peu plus rapidement dans l'histoire, à partir du moment où l'imprimerie s'est développée, où on a introduit la notion de mise en page, on a estimé nécessaire de donner des clés de lecture aux lecteurs de théâtre.
Absolument. Dès l'instant où le théâtre devient aussi un texte lu, bah, il faut l'organiser, il faut le mettre en page. Et ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, mais effectivement, ça se fixe au XVIIe siècle. Voilà. Parce que là, il y a un grand essor de l'imprimerie et il y a des bons usages qui se transmettent d'un éditeur à l'autre. Et on va trouver comme ça des conventions, par exemple en France, l'italique pour désigner justement les didascalies. On note le nom du personnage. Bon, ça, c'est depuis un certain temps déjà. Mais il y a comme ça un ensemble de conventions, notamment conventions typographiques qui organisent le texte et qui font que ce texte peut être lu une fois qu'on... Voilà, après, ça demande un peu d'habitude, mais...
Je cite une phrase de votre ouvrage. « La première fonction des didascalies est de faire apparaître des trous dans le dialogue, de rendre possible une forme d'incomplétude du texte. »
Oui, absolument. Parce que, en fait, les didascalies, ça permet, entre autres, d'inscrire le geste dans le texte. Et c'est ce que fait, par exemple, magnifiquement Diderot. C'est-à-dire que Diderot, au XVIIIe, il révolutionne complètement les façons d'écrire le théâtre parce qu'il inscrit le geste dans le texte. Et donc, d'un seul coup, par exemple, faire une scène d'exposition, jusque-là, dans la dramaturgie classique, eh ben, on la faisait uniquement avec les mots. Il fallait tout passer par les mots. Et d'un seul coup, Diderot, il fait ce qui nous semble aujourd'hui basique, mais qui, à l'époque, a été tout à fait extraordinaire. Il fait une scène muette et qui déjà pose une situation et met en jeu des personnages et commence à poser des bouts d'histoire. Et ça, ça passe par les didascalies.
Corneille appelait ça le petit secours.
Oui, absolument. C'est ça, c'est les petits secours. Parce que ça aide justement le lecteur à voir ce que le théâtre présente à la vue des spectateurs. En fait, c'est ça la formule plus ou moins de Corneille. Et donc, ça secourt. Parce que si on n'a pas le nom, par exemple, du personnage, bah comment on sait qui parle ? C'est comme ça qu'on écrivait les textes dans l'Antiquité. Il y avait des techniques pour savoir qui parle, mais au XVIIe, enfin voilà, donc on donne le nom du personnage. Et puis s'il y a un geste à faire sur scène qui est important, par exemple si un personnage sort son épée, ben si on a une didascalie qui écrit « il sort son épée » quand on lit le texte, c'est très simple. Mais si on n'a pas ça, ben, s'il n'y a pas de mots dans le dialogue qui le signale, ben on ne comprend pas.
Vous datez d'environ 1630, avec la modernisation de la typographie, la séparation entre la didascalie, donc l'indication scénique, l'indication de jeu, et le texte lui-même.
En fait, elle se fait avant, hein, c'est-à-dire qu'on a un système dès le Moyen-Âge où on va distinguer les didascalies du dialogue, mais avec des usages qui pour nous sont différents que nos usages qui sont justement fixés au XVIIe. Par exemple, on met de la couleur. On écrit en rouge voilà, les mots. Et c'est au XVIIe, comme je le disais, notamment dans les années effectivement 1630, où il y a un grand boom de l'édition théâtrale, notamment à Paris. Et donc là, on va mettre en place, on va fixer des usages.
Alors un tout petit peu plus tard, et c'est sous la plume de Molière, on voit la didascalie que je vais qualifier de faux cul. Là, je prends un extrait de votre ouvrage, c'est Tartuffe qui parle. « Le ciel défend de vrai certains contentements », entre parenthèses, c'est un scélérat qui parle. Là, c'est Molière qui se dédouane de la parole de Tartuffe en disant « Roi, attention, c'est pas moi qui parle ».
Absolument, et ça c'est une autre fonction absolument primordiale de la didascalie, c'est-à-dire que la didascalie d'abord, ça pose des conditions d'énonciation. Ça dit qui parle, où on est, comment, ce qui se passe sur scène, ça donne le geste, etc. Mais c'est aussi, en fait, des mots qui accompagnent le dialogue et qui, historiquement, viennent du commentaire. Parce que les premières didascalies, en fait, elles n'ont pas été écrites pour les acteurs, elles ont été écrites pour des lecteurs, par des savants. Et en fait, on a toujours cette dimension herméneutique des didascalies, et plus ou moins marquée. Et effectivement, Molière, on sait, le Tartuffe avait été interdit, etc. Voilà, donc il y a eu cette cabale par les dévots. Et donc, au moment où il fait dire à Tartuffe des paroles complètement sacrilèges, où il dit qu'en gros, on peut s'arranger avec le ciel et on peut très bien coucher avec la femme d'un autre, parce que lui, il sait faire. Voilà, c'est complètement sacrilège. Et en fait, là, il écrit « c'est un scélérat qui parle ». Histoire de dire, effectivement, « c'est pas moi ». Voilà, c'est le personnage, c'est un méchant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait dit ça dans sa préface aussi. Dans sa préface, il explique qu'il met en scène un scélérat. Et le fait qu'on ait les mêmes mots dans la préface et dans la didascalie, ça montre bien qu'il y a cette fonction, justement, interprétative. C'est un commentaire. Et au XVIIe, les didascalies, on appelait ça des notes. C'est-à-dire exactement comme c'est le vocabulaire du commentaire.
Alors, de la fin du XVIIe jusqu'à la fin du XXe, la didascalie a enflé, gonflé, jusqu'à prendre une place démesurée. Vous citez un autre exemple, qui est l'exemple d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, il en fait des tartines. Hein. « Intérieur d'une cour de ferme, les bruits nous l'ont décrit d'une façon exacte. Portail croulant, mur bas fleuri d'ombelles, foin, fumier, meule de paille. » Il met dans l'ambiance, donc la didascalie est également descriptive.
Hein. Oui, bien sûr. On ça peut servir aussi à poser le décor. Et ce qui est important dans cet exemple que je trouve très amusant du chant de Claire d'Edmond Rostand, c'est qu'en fait, il a publié, c'était en 1910, deux fois son texte. Une première fois dans l'illustration théâtrale en quatre fois, hein, donc c'était un magazine, enfin une revue de l'époque. Donc là, il écrit notamment au début de chaque acte une didascalie qui pose le décor. Et puis après, il fait une version d'un bel ouvrage broché, voilà, pour mettre dans des bibliothèques. Et là, il réécrit ces didascalies au début de chaque acte en les mettant en alexandrin, c'est-à-dire comme le reste du texte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail d'écriture aussi dans la didascalie. Et il y a une inventivité aussi à ce niveau-là de l'écriture théâtrale.
On est avec Pierre Letessier, on parle des didascalies en question dans Radio Scénique sur Aligre FM 93.1.
Ça fait longtemps que tu m'attends.
Pénétra-t-il dans le café?
Je viens tout juste d'arriver.
Lui mentit-elle effrontément?
Je bosse à l'international.
En rajouta-t-il quelque peu?
En Europe, les marchés vont mieux.
Récita-t-elle le journal? Tu supportes la cigarette?
S'inquiéta-t-il soudainement?
Ça ne me dérange aucunement.
Tout sauta-t-elle dans sa tête?
Souhaites-tu que je te dépose?
Lui actionna-t-il la portière?
Tu veux pas boire un dernier verre?
Sous-entendit-elle quelque chose? Je me sens vraiment remué.
L'embrassa-t-il passionnément?
L'embrassa-t-il passionnément?
Je me sens vraiment remué.
J'attendais ça depuis longtemps. S'enfonça-t-elle dans l'oreiller? M'a rouflé-t-il du papier peint?
J'y vais très vite et je reviens.
Démarra-t-elle comme une folle?
Nous allons bientôt être trois.
Eut-elle une grosse envie de fraîche?
Je crois que je fais un malaise.
Ne put-il contenir sa joie? Je crois que j'aperçois son nez.
S'évanouit-il à l'hôpital?
Augmenter la péridurale?
Étrangla-t-elle un infirmier?
Elle te ressemble et pas qu'un peu.
Ne le pensa-t-il pas du tout?
C'est vrai qu'elle est mignonne comme tout.
Eut-elle de la merde dans les yeux?
Je me sens vraiment remué.
L'embrassa-t-il passionnément?
L'embrassa-t-il passionnément?
Je me sens vraiment remué.
J'attendais ça depuis longtemps. S'enfonça-t-elle dans l'oreiller? Quand même quelques bonnes notes.
Éplucha-t-il son bulletin?
Je crois bien qu'elle a un copain.
Découvrit-elle une capote?
Nous allons être grands-parents.
Eut-elle besoin d'un pacemaker?
C'est le troisième à la bonne heure.
Eut-il besoin d'un remontant? Aujourd'hui il fait plutôt froid.
Eut-elle une crampe dans le dos?
J'ai rencontré Madame Michaud.
Eut-il de l'arthrose plein les doigts?
Y'a quoi ce soir à la télé?
Mit-elle ses dents dans un verre d'eau?
J'ai rencontré Madame Michaud.
Commença-t-il à radoter? Je me sens vraiment remué.
L'embrassa-t-il passionnément?
L'embrassa-t-il passionnément?
Je me sens vraiment remué.
J'attendais ça depuis longtemps. S'enfonça-t-elle dans l'oreiller? Je ne veux pas que tu me pleures, poussa-t-il son dernier soupir. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Arrêta-t-elle son pacemaker? Je me sens vraiment remué.
L'embrassa-t-il passionnément?
L'embrassa-t-il passionnément?
Je me sens vraiment remué.
J'attendais ça depuis longtemps. S'enfonça-t-elle dans l'oreiller?
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Et on est toujours en compagnie de Pierre Letessier, auteur des didascalies en question. Quel est le champion toute catégorie de la didascalie? Celui dont les dialogues seraient presque en termes de volume inférieurs aux commentaires et aux didascalies.
Alors tout au long du 20e,
ah, on vous entend pas bien. Voilà, c'est bon.
Tout au long du XXe, il y a une amplification de l'écriture didascalique. On peut penser bien sûr à Ionesco ou à Beckett. Beckett avec Acte sans parole, où il n'y a que des didascalies.
Mais si je vous avais bien lu, Beckett ne respectait pas toujours ses didascalies, c'est ça?
Ah non, mais ça c'est une question intéressante. C'est-à-dire que souvent, on considère que les didascalies, ça indique ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ça dit au lecteur ce qu'il faut imaginer. Et ça dit aux praticiens ce qu'il faut mettre sur scène. Et c'est ce que Anne Huberfeld appelle la fonction injonctive. En fait, c'est un ordre qui est donné aux praticiens et aux lecteurs. Et on cite généralement Beckett, parce que et Beckett était connu. Il y a cette image-là, en fait, vraiment de « il faut faire ce qu'il a écrit ». Ionesco, pareil. Ionesco disait qu'il voulait, lui, il voulait soumettre le metteur en scène. Mais en fait, si on regarde dans le détail, on se rend compte que Beckett lui-même, quand il est metteur en scène de ses propres textes, en fait, il ne suit souvent pas ses indications scéniques et même quelquefois pas du tout.
Mais c'est vraiment pas du tout. Pourquoi ?
Mais parce que s'il est metteur en scène, il n'est plus auteur. Donc en fait, il peut avoir des idées qui viennent et puis après, il y a cette liberté du geste de la mise en scène. Par exemple, dans Un attendre Godot, ça commence avec Estragon qui a des ennuis avec sa chaussure. Et puis après, il y a une didascalie qui indique que Vladimir entre en scène. Eh bien, Beckett, quand il a mis en scène En attendant Godot, eh bien, Vladimir est déjà sur scène. Et ça change tout, parce que ça veut dire qu'il est déjà dans l'espace, ils sont déjà enfermés dans le même espace. Il ne vient pas d'un ailleurs. Donc ça, c'est des changements fondamentaux. Eh bien, Beckett s'autorisait ce genre de changements fondamentaux.
Pierre Le Tessier, j'ai envie de vous faire écouter un petit extrait.
On y va, tu dis les didascalies, s'il te plaît.
Alors, le jeu des rôles. Une pièce de Luigi Pirandello. Acte 1, scène 1. Salon chez Cilia Gala, bizarrement décoré et meublé. Au fond, grande porte vitrée hollandaise à carreaux rouges enchâssés dans des croisillons blancs. Scène première. Cilia Gala, Guido Venanzi. Au lever du rideau, la porte vitrée du fond est ouverte. Guido Venanzi, en habit, est dans la salle à manger, debout près de la table sur laquelle on aperçoit une cave à liqueur en argent avec plusieurs bouteilles rangées dans les anneaux. Cilia, vêtue d'un léger déshabillé décolleté, est au salon, perdue dans ses pensées.
De quoi s'agit-il, Pierre Le Tessier ? Enfin, on a entendu, il s'agit de Pirandello.
Oui.
Alors, c'est quoi cette pièce ? 6 personnages en quête d'auteur, on est dans la mécanique du théâtre, là ?
Absolument, et c'est intéressant justement par rapport à ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire sur cette idée que les didascalies disent ce qu'il faut faire, parce qu'en fait, là, on lit les indications scéniques, et peu après, dans le passage, si je me souviens bien, il y a un acteur qui dit « Mais comment je devais devoir porter ça, moi, ce chapeau, mais c'est ridicule ?» Et en fait, le metteur en scène dit « Bah oui, évidemment, c'est écrit !» Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée. Alors, à ce moment-là, Pirandello, c'est 1920, enfin, les années 20, ce texte-là. Donc, on est vraiment dans cette idée des didascalies injonctives. Et si on considère ça, j'insiste, parce que souvent, ça rabat les choses. C'est-à-dire qu'il y a même des metteurs en scène qui ne lisent pas les didascalies ou qui disent à leurs acteurs de ne pas lire les didascalies. Et en fait, on sait que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, effectivement, les metteurs en scène, enfin, la mise en scène s'est autonomisée. Par rapport au texte. Le metteur en scène a ce geste créatif. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces didascalies ? Et les considérer comme des injonctions, à mon sens, enfin de toute façon aujourd'hui c'est plus possible, ça ne marche plus du tout.
J'aimerais qu'on parle du cas d'Antonin Artaud, pour reprendre le XXe siècle, et de Jet de sang, une de ses pièces de théâtre. De quoi s'agit-il ?
Alors ça, ça fait partie des textes de théâtre écrits par Artaud, et c'est intéressant parce que Artaud, il est celui qui disait justement qu'il voulait se débarrasser du texte de théâtre. Et d'une certaine façon, il écrit des textes, et ces textes, ce qui sauve le texte de théâtre pour Artaud, on pourrait dire que ce sont les didascalies. Au sens où, ce qu'il veut faire, c'est évacuer le sens, évacuer le psychologique, enfin tout ce théâtre bourgeois qu'il exècre. Et quand on lit son texte, eh bien, on se rend compte déjà qu'il y a pratiquement plus de didascalies que de dialogues, et que le plus intéressant, souvent, ce sont les didascalies. Par exemple, ça commence par, vous avez un dialogue complètement banal et désuet entre un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme dit « je t'aime et tout est beau », la jeune fille répond « je t'aime et tout est beau ». Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est passionnant, et il répète ça plusieurs fois, plus ou moins, ce sont les indications scéniques qui portent uniquement sur la voix, sur le travail de la voix. Et en fait, quand on lit les écrits théoriques d'Artaud, En fait, il y a cette volonté-là. C'est-à-dire que le mot doit être sur scène avant tout un matériau sonore et pas du sens psychologique, etc. Et en fait, il y a une invitation vraiment, par toutes ces indications, à passer le texte dans une autre dimension, qui est une dimension purement musicale, sonore, avec des cris. Et on a quantité de variations, du plus petit chuchotement au cri extrême, à la voix de ventriloque, au spasme. Enfin, il y a vraiment un travail comme ça. Donc, la didascalie déplace en fait le texte complètement dans autre chose. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt de ces petits mots, c'est que justement, elles sont porteuses d'une pensée dramaturgique, et ça permet à un auteur comme Artaud, en fait, d'arracher le texte à ses habitudes conventionnelles et d'en faire quelque chose de complètement nouveau.
Je vous cite, « Devenue énigme, les didascalies ont pour fonction de creuser des trous dans le texte, elles visent à se déstabiliser et imaginer de nouveau. »
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une double fonction. Soit on écrit des didascalies comme on l'a déjà écrit, et à ce moment-là, on insère le texte dans une structure dramaturgique. C'est ce qu'on fait, par exemple, au XVIIe. Il faut découper un texte en actes et en scènes. Et entre deux actes, on sait qu'il y a un laps de temps, il y a une petite action qui se passe. Donc si on écrit en suivant l'usage didascalique, en fait, on applique les règles poétiques classiques. Mais sinon, ça peut servir aussi à arracher le texte, justement, à ses habitudes dramaturgiques. Et on peut réinventer des façons d'écrire et donc ensuite d'imaginer un texte.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la didascalie a accompagné le développement esthétique du théâtre et la structuration en scène, en acte. Ça s'est fait conjointement. La didascalie est l'accompagnant discret du texte de théâtre au travers des siècles.
En fait, la didascalie...
Plus ou moins discret, d'ailleurs.
La didascalie fait partie du texte. C'est-à-dire que le texte de théâtre, c'est le dialogue et les didascalies. C'est les deux. On n'écrit pas l'un sans l'autre. Sauf au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes et au 3e, 2e à Rome avant Jésus-Christ. Mais depuis le Moyen-Âge, quand on écrit le texte, on écrit des didascalies. Donc en fait, le texte de théâtre, c'est les deux. Vraiment.
Et pour certains, c'est la didascalie, rien que la didascalie, toute la didascalie. Ionesco écrivait « Ces indications scéniques sont à respecter aussi bien que le texte, elles sont nécessaires, elles sont aussi suffisantes. Point. On ne discute pas. »
Exactement. C'est ça. Oui, on retrouve cette fonction, voilà, cette idée de l'auteur qui a cette mise en scène en tête et qui écrit des didascalies. Et Ionesco est caractéristique de ce mouvement, puisqu'il écrit même que s'il n'écrit pas des didascalies, il ne faut rien faire.
Moyenne en quoi, depuis 1957, se joue la leçon au théâtre de la Huchette. Le XXe siècle, et surtout le XXIe siècle, ont marqué une mise en discrétion, voire une disparition de la didascalie. Elle était tueuse de liberté.
En fait, elle a souvent été comprise comme tueuse de liberté, et l'amplification des didascalies au XXe a souvent été analysée comme justement cette lutte entre l'auteur et le metteur en scène, parce que le metteur en scène... gagnant cette liberté de création, l'auteur, cette idée que l'auteur écrit plein de didascalies pour le contraindre. Sauf que, en fait, si on regarde l'évolution de l'écriture, déjà on se rend compte que beaucoup d'auteurs aujourd'hui n'écrivent plus forcément des didascalies, ou bien alors ils les écrivent d'une toute autre façon, parce qu'en fait ils ont intégré le fait que le metteur en scène est totalement libre, et ça leur donne d'autres façons, ça leur permet d'inventer d'autres façons d'écrire des didascalies.
Et dans la didascalie, on est parfois amené même à ne pas mentionner la fonction du personnage, voire son genre.
Ah ben
on laisse ça flottant.
Ah ben, si on écrit un texte en didascalie, on laisse tout flottant. Mais après, on peut organiser justement, et c'est là où c'est passionnant. C'est-à-dire que c'est là où ça crée des aventures pour la lecture, c'est-à-dire voir quelles sont les zones de flottement et essayer de comprendre pourquoi il y a flottement ou pas flottement, ou pourquoi au contraire il y a des indications, et qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut en faire après, bien sûr.
On a dit tout à l'heure, le théâtre, depuis le XVIIe siècle, il est fait pour être lu tout autant que pour être joué. Or, l'édition théâtrale ne se porte pas au mieux. Est-ce que les didascalies pourraient venir au secours du texte de théâtre, ou quelle est leur fonction aujourd'hui au XXIe siècle?
Alors ça, c'est un vaste débat, c'est-à-dire comment relancer la lecture du théâtre. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que si on s'intéresse aux didascalies, ça ne peut que attiser ce plaisir qu'on peut avoir à lire ces textes. Parce que justement, je parle d'énigmes en particulier, donc pour l'écriture contemporaine, ça pose plein de questions. Et on a des auteurs qui font preuve d'une imagination débordante et qui réinventent les façons, justement, de présenter un texte de théâtre et d'écrire ou de signifier des didascalies.
On vient d'entendre Eric, une valse d'Eric Satie, valse distinguée du précieux dégoûté, numéro 2, son binocle à Mademoiselle Linette Chalupte. Vous saviez que Satie avait écrit des didascalies. Si on regarde la partition, Pierre Le Tessier, vous qui êtes l'auteur des didascalies en question, si je lis là, la partition, il y a les notes et au-dessus, il y a « Il se regarde, il fredonne un air du XVe siècle, puis il s'adresse un compliment tout rempli de mesures ». Qui osera dire qu'il n'est pas le plus beau? Son cœur n'est-il pas tendre? Vous saviez qu'il y avait des didascalies en musique?
Alors non, je ne connaissais pas cette partition.
Bah, tenez, je vous la donne.
Ah ben voilà. Merci. Mais ça m'intéresse d'autant plus que, en fait, le fait d'inventer les façons d'écrire les didascalies, très souvent, on est allé regarder aussi du côté de la musique. On parle de partition beaucoup pour le texte de théâtre contemporain, et on est allé inventer d'autres façons. C'est-à-dire que la musique prenne des usages, enfin des façons de faire de l'édition théâtrale, c'est, la même chose se passe dans l'autre sens.
Vous dites, parlons maintenant de la didascalie au XXIe siècle. Dans ce que je lis de vous, c'est comme si elle était part intégrante d'une révolution esthétique, voire politique. Le texte de théâtre aujourd'hui est résolument politique et la didascalie l'accompagne dans ce mouvement.
Alors en fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a une révolution dramaturgique et même dans l'écriture, c'est-à-dire que depuis les années 1980, en fait, on écrit des didascalies qui, de façon explicite, ne sont plus injonctives. C'est-à-dire que si Genet disait « ça sera comme ça », ou Pirandello par exemple, « telle chose se passera », aujourd'hui on écrit des didascalies, beaucoup d'auteurs écrivent des didascalies sur le mode hypothétique. Peut-être telle chose va se passer, peut-être il y a telle chose, peut-être il y a tel élément de décor.
Ou elles deviennent très alambiquées. On pourra envisager que le comédien fasse ceci, cela, ou que la comédienne, mais ça peut être un comédien, enfin voilà, tout est ouvert.
Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, tout est ouvert. Et ça, évidemment, ça renvoie au fait que, justement, c'est une prise en compte de la liberté du geste du metteur en scène, mais ça va beaucoup plus loin, parce que ça change complètement, déjà, les façons de lire le texte. Donc, à mon sens, il y a une vraie... Enfin, si on regarde, en fait, l'histoire de façon un peu large. On a le théâtre de l'Antiquité où on n'écrit pas de didascalie. Ensuite, on a le théâtre où on écrit des didascalies et qui ont une fonction injonctive parce que ça, soit ça dit ce qui s'est passé sur scène, soit ça dit ce qu'il faut imaginer ou faire sur scène. Et puis, il y a le théâtre tel qu'on l'écrit depuis les années 1980, le théâtre contemporain, où, en fait, on écrit des didascalies sur le mode hypothétique. Et ça, alors, d'un point de vue dramaturgique, ça pose plein de questions parce qu'en fait, les didascalies deviennent des énigmes. Donc, du point de vue de la lecture, il y a un véritable plaisir d'enquête, en fait. Chaque lecteur est invité à être une... Enfin, voilà, moi, j'adore les romans policiers, mais si on aime ça, enfin, on mène des enquêtes dans les livres. Mais, d'un point de vue plus large, d'un point de vue politique, en fait, oui, c'est un geste politique. Parce que déjà, ça veut dire, on ne considère pas que le lecteur est quelqu'un à qui on dit, ben voilà, là, il y a ça, là, tu imagines ça, là, il se passe ça. En fait, eh ben, le lecteur lit le texte, fais-toi tes idées, pose-toi tes questions. Et donc, on invite le lecteur à être pleinement actif et créatif. Et ça, déjà, rien que ça, c'est un geste politique.
On continue effectivement à avoir cette écriture double, l'écriture pour le plateau et l'écriture pour la lecture.
Absolument. Oui, on continue à écrire avec ce double destinataire.
Alors, je vais vous poser la question à vous qui êtes directeur d'études théâtrales. Quel est le plaisir qu'on peut avoir à lire du théâtre plutôt qu'un roman ou qu'un essai? Quel est le plaisir que vous tirez de la lecture d'une pièce de théâtre ?
Alors, moi, je prends autant de plaisir à lire un roman qu'un texte de théâtre. Mais justement, le texte de théâtre, en fait, pour moi, il y a vraiment cette partie d'enquête. Mais quand je dis enquête, ce n'est pas une étude scolaire où on va... Non, non, c'est vraiment... Ça pose des questions. C'est-à-dire, quand d'un seul coup, vous avez une didascalie qui dit « Bah, peut-être il se passe ça. » On dit, ah bon, mais pourquoi peut-être il se passe ça? Mais s'il se passe ça, qu'est-ce que ça implique? Et s'il ne se passe pas ça? Ou bien quand vous rentrez dans un texte, par exemple, des textes comme les textes de Noël Renaud, vous avez vous ouvrez la page et vous avez un tableau. Et il n'y a plus du tout les didascalies telles qu'on les connaît d'habitude. Il faut se poser la question. Donc en fait, il y a vraiment un goût de la curiosité. Et puis après, ça renvoie, c'est de la parole, c'est des textes adressés. Et puis souvent, il y a une force parce que il faut projeter aussi les corps. Donc ce sont des voix, mais ce sont des voix à passer dans l'espace, à mettre dans des corps. Et ça, c'est une force particulière que n'a pas forcément le roman.
Deux, trois titres de pièces de théâtre qui viendraient illustrer votre propos des pièces contemporaines. Vous nous parliez de Noël Renaud.
Alors, j'allais dire tous les titres de Noël Renaud, mais il y a beaucoup d'auteurs, c'est difficile comme exercice. Par exemple, les textes de Pauline Perrade sont très inventifs aussi sur le jeu avec les didascalies, ou les textes de Kofi Kwaoulé, qui est un des auteurs qui écrit le plus, peut-être, de didascalies hypothétiques, jusqu'au jour où il arrête. Mais c'est pas définitif parce qu'il en réécrit dans des textes après, mais il arrête d'écrire complètement des didascalies. C'est-à-dire que, et ça on en parlait tout à l'heure, on se retrouve avec un texte avec uniquement le dialogue, c'est-à-dire avec un texte, ça c'est assez vertigineux, enfin bon, peut-être plus pour l'historien que je suis, mais c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des textes qui ressemblent d'une certaine façon aux textes qui étaient les textes antiques. Sauf que ce sont des textes qu'on lit, et puis il y a quand même des blancs, parce que le blanc depuis le XVIIe joue un rôle important dans la mise en page du texte de théâtre, et on a quand même des blancs entre les répliques. Mais on a des voix, voilà. On n'a plus que des voix, et ça pose aussi des questions politiques.
Alors Pierre Le Tessier, il va me rester à vous remercier. Rappelons que vous êtes l'auteur des didascalies en question, qui est paru chez Actes Sud Papier, et j'ai envie de conclure notre entretien avec une de vos citations. Il y a une dramaturgie de la lecture comme il y a une dramaturgie du plateau. Pierre Le Tessier, merci.
Merci.
Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin à la fenêtre qui frissonne. Et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre, comme au théâtre. Et je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines. Plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. À l'acte de nouveau décor, j'avais rêvé un rêve fou. Tu l'exauces, nous primes l'avion pour des vacances à Corfou. Tu étais beau comme un Hermès, torse nu parmi les ruines, dans l'ombre bleue des grands cyprès qui s'étageaient sur la colline. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle, je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse, me réclamait la voix vibrante. Pour ses bambins, le bon papa qu'avait volé une intrigante. Comme au théâtre, comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. le vaudeville tout à coup a remplacé la tragédie. Don Juan quittait son piédestal pour jouer l'éternel mari. C'était un drôle. On a parlé de trahison, de sacrifice. Ça ne me concernait plus. J'étais devenue spectatrice. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Comme au théâtre.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Sur Aligre FM, Radio Scénique qui parle aujourd'hui des didascalies. Jérôme Vaquier, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Vaquier, on va vous resaluer parce qu'on ne vous a pas entendu.
Bonjour.
Voilà, bonjour à vous. Vous êtes comédien, metteur en scène et directeur de la compagnie Les Lucioles. Et dimanche prochain, dimanche 14 donc, à 18h, dans le jardin shakespearien, dans le bois de Boulogne, au Théâtre de Verdure, à 18h, vous allez vous produire avec votre compagnie et vous allez enfin nous montrer la clairière dont on avait eu l'occasion de parler ici. Les didascalies, ça vous dit quelque chose? Il y en a beaucoup dans le texte de Stéphane Gioberti, la clairière?
Alors, je suis très content d'entendre finalement, en fait, Pierre parler des didascalies. Effectivement, du coup, les didascalies, pour moi, étaient considérées vraiment comme une injonction et qu'il ne fallait pas suivre. Et depuis que j'ai lu le texte, en fait, de Pierre Le Tessier, les didascalies en question, je me suis dit, mais finalement, ces didascalies peuvent aussi avoir un intérêt en tant que metteur en scène. Et alors là, dans La clairière de Stéphane Gioberti, l'auteur donc Stéphane Gioberti a écrit le texte pour notre équipe et pour la compagnie des Lucioles, il y a une didascalie enfin, qui est assez très importante, c'est Pierre, donc un des personnages, qui a souvent, enfin qui doit avoir un verre rempli de pop-corn et qui doit manger des pop-corn en fait, tout au long de la pièce. Alors, on a essayé de travailler avec ces pop-corn. Et finalement, on a décidé de ne pas les utiliser, mais on a essayé, ça nous a ouvert différentes portes, mais on ne les a pas utilisées parce que finalement, ça a créé une dynamique différente. C'était comme s'il n'était pas... Le personnage était intégré dans la pièce, il était plutôt comme étant au cinéma.
La clairière, c'est l'histoire d'un mur qui un jour disparaît. On est dans une copropriété tranquille avec des copropriétaires hein, qui font claquer leurs titres et des locataires qui essayent de trouver leur place. Et un jour, ce mur disparaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce texte que vous aviez eu l'occasion de nous faire découvrir il y a de ça un an lors de la première de Radio Scénique?
Bah, merci déjà pour la réinvitation. Alors oui, ce sont Pierre et Luce qui habitent en fait dans une résidence sécurisée, protégée par un mur. Et tous les soirs, en fait, depuis plusieurs années, ils s'assoient dans le jardin et observent le soleil qui va se cacher derrière le mur tous les soirs un peu plus tôt. Et en cette soirée d'automne, le soleil se cache un peu plus tôt que d'habitude et Luce voit le soleil comme étant en fait inquiet, comme n'étant pas comme d'habitude. Et finalement, ce soleil, qui prend une dimension extraordinaire dans la pièce, va faire que le mur, à la fin du prologue, disparaît. Et donc tous les protagonistes, les 8 personnages qui sont donc propriétaires ou locataires de cette copropriété, vont voir un terrain vague et la forêt et vont avoir peur ou vont être intéressés par éventuellement les gens qui se trouvent dans cette forêt qu'ils n'ont jamais vu et auxquels ils ne souhaitaient ne pas voir non plus.
Alors c'est
très longtemps.
C'est l'affolement. Alors, il y en a certains qui sont affolés devant l'étrangeté, voire l'étranger, qui n'est pas absent de cette pièce.
Oui, effectivement. Donc, en fait, l'étranger est représenté souvent par un invisible qui vient, en fait, tous les matins dans cette résidence sécurisée que personne ne connaît, mais qui vient, en fait, travailler pour nettoyer la piscine, pour nettoyer le jardin, pour nettoyer, en fait, les parties communes. Mais, et donc, ce personnage va avoir une importance extraordinaire dans la pièce et va chambouler certaines choses. Et petit à petit, il y a un parallèle entre le mur physique qui disparaît et les murs en fait psychologiques des 8 personnages qui vont en fait tomber les uns après les autres, et on va découvrir en fait des secrets qui ont été souvent en fait bien gardés et par les uns et par les autres.
Il y a un an, nos micros étaient à Senlis, hein, là où vous aviez une résidence. On avait fait une captation dont on avait fait bénéficier les auditeurs en partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous travaillé depuis un an? Quelles ont été les différentes étapes du travail autour de ce texte?
Alors, en fait, on a eu différentes résidences d'artistes dans différents lieux tout au long de l'année, en fait, 24-25, où on a répété le jeu, la technique, les costumes, le son, la création sonore. Donc, en fait, il y a eu plusieurs sessions de travail. Et là, en fait, le Théâtre de Verdure, qui se trouve donc au Bois de Boulogne, et en fait, qui est un festival de théâtre qui s'est déroulé
en plein air,
qui s'est déroulé, en fait, tout l'été et se termine fin septembre, en fait, a choisi ce texte pour que nous venions le présenter aussi en extérieur, dans un cadre naturel, puisque la pièce se passe en 4 jours et il y a donc 4 couchers de soleil, et il y a en fait chaque jour des choses importantes qui se passent, et à la fin, est-ce que le mur va être reconstruit ou est-ce que finalement, en fait, le vivre ensemble va pouvoir enfin exister?
Alors la prochaine étape, je crois que vous avez une répétition, une mise en place cette semaine. Hein,
Oui, c'est ça, on a une mise en place, une répétition cette semaine au Théâtre de Verdure. Donc en fait, dimanche, c'est à 18h.
C'est gratuit, précisons-le.
Oui, et c'est donc une lecture théâtralisée en plein air. Ensuite, on a encore des répétitions au mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint, et ensuite on est en tournée sur le territoire en fait, français pour présenter la pièce, et c'est coproduit aussi par le Festival francophone de Barcelone, donc on ira jouer la pièce à Barcelone cet hiver.
Alors vous allez la présenter sous quelle forme dans le Bois de Boulogne, cette pièce? Scénographié, texte en main, c'est... qu'est-ce que... Donnez-nous un petit peu, levez un tout petit peu le voile ou le rideau, qu'il n'y aura pas d'ailleurs, sur la représentation de dimanche.
Comme il n'y a pas de rideau, nous allons pas venir non plus avec notre scénographie. Nous allons en fait jouer avec la scénographie naturelle, avec le soleil couchant, plein ouest.
En costume
En costume, avec certaines parties des costumes, et en musique. Et avec les 7 comédiens qui seront sur le plateau. Enfin, sur le gazon majestueux du théâtre élisabétain, du théâtre de Verdure.
Quels ont été vos rapports avec l'auteur? On parlait tout à l'heure des didascalies. Bon, la didascalie ordonnant ou faisant une injonction de manger du pop-corn pendant toute la pièce, vous n'avez pas pu la respecter. Mais comment ça se passe, le respect du texte, l'aménagement du texte? Je crois savoir qu'il y a eu beaucoup de travail de part et d'autre sur le texte.
Alors en fait, Stéphane Gioberti est un auteur qui a écrit une quarantaine de pièces éditées aux éditions théâtrales. Certaines ont beaucoup de didascalie, d'autres pas. Et là, en fait, il l'a écrit pour notre compagnie. Il y a eu un parallèle entre l'écriture. Il est venu assister à des répétitions où on a pu improviser sur la thématique, sur l'écriture. Il a repris l'écriture. Donc, il y a eu un va-et-vient entre finalement la mise en scène, le jeu des acteurs et l'auteur pour arriver à une version définitive. Et cette version sera éditée cet hiver aux éditions théâtrales.
Comment est-ce que chacun arrive à garder sa place, le metteur en scène à ne pas intervenir dans le texte et l'auteur à ne pas intervenir dans la mise en scène?
Bon, si c'est défini dès le départ, en fait, chacun a la responsabilité de son corps de métier. Et je dirais que c'est le plus difficile, c'est peut-être pas ni l'auteur ni le metteur en scène, mais c'est éventuellement les comédiens. Parce que finalement, ils doivent réapprendre des textes qui changent et ils se mélangent un peu les pinceaux. Et c'est eux qui peuvent être un peu en difficulté et demander que le texte soit terminé le plus rapidement possible.
Un texte de comédien, c'est bourré de notes. Finalement, est-ce que, pour reprendre le thème de Pierre Le Tessier, est-ce qu'on se fait pas ses propres didascalies sur son texte à soi?
Ah oui, et après les didascalies que chaque comédien écrit sur son texte, c'est plutôt sur soit des intentions de jeu, soit des déplacements, soit finalement en fait aussi les relations entre les personnages, comment finalement on va pouvoir construire finalement son identité, l'identité du personnage. Donc ça, en fait, il y a effectivement des comédiens qui écrivent beaucoup, d'autres pas du tout, d'autres...
Vous, en tant que comédien, parce que vous êtes dans la distribution de la clairière comme
oui,
comédien.
Oui, tout à fait.
Votre texte à vous, il ressemble à quoi ?
Un peu fouillis. C'est fouillis, en fait, mon texte à moi. Je vois des comédiens qui sont beaucoup plus structurés que moi.
Jérôme Baquet, on peut rappeler l'événement pour lequel vous nous avez fait le plaisir de nous visiter. C'est La Clairière.
La Clairière de Stéphane Jauberti, qui est donc présentée en fait ce dimanche 14 septembre à 18h au Théâtre de Verdure, Théâtre Élisabethin. Et vous tapez Théâtre de Verdure sur Internet, vous pouvez réserver vos places.
Ou alors vous allez sur la page Radio Scénique sur Allegre FM où nous mettrons le lien pour la réservation. Jérôme Baquet, merci.
Merci.
Voici venue l'heure de votre chronique, Pascal Dutertre, vous qui êtes notre architecte maison. Dans le cadre d'une précédente émission, vous nous aviez parlé du théâtre médiéval, mais apparemment, vous ne nous aviez pas tout dit à ce sujet.
En effet, mais tout d'abord, il me faut mentionner l'aide précieuse apportée par un ouvrage qui a été publié en 1993 par André Degaine, qui s'intitule « L'histoire du théâtre dessiné ». Et je m'en inspire beaucoup. Concernant le Moyen-Âge, nous avions donc évoqué la notion de drame liturgique qui avait pour décor l'espace et l'architecture des églises médiévales. Nous avions aussi parlé des miracles, toujours liés à la religion, mais produits cette fois sur le parvis de l'église, et nous avions conclu la chronique par les mystères, grands spectacles qui apparaissent au début du XVe siècle, relatant entre autres la vie des saints. Ces représentations se déroulaient sur plusieurs jours, le plus souvent sur les places publiques et à l'extérieur des remparts. Aujourd'hui, nous allons naviguer du XVe au XVIe siècle à travers le théâtre profane. Celui-ci se décline en trois types de représentations, la moralité, la sottie et la farce. Rappelons que dans le cadre des fêtes, notamment des carnavals, il était toléré une licence qui se traduisait par des moqueries à l'égard des autorités. Il y avait des jours où tout était permis, y compris de tourner la religion en dérision. On trouvait dans certaines villes des confréries joyeuses, c'est ainsi qu'on les appelait, qui faisaient en quelque sorte concurrence aux confréries de la Passion. Parmi elles, nous avons les Connards à Rouen, les Suppôts du Seigneur de la Coquille à Lyon ou encore la Mère Folle à Dijon.
Alors justement, à propos de folie, en quoi consiste le spectacle appelé la sottie ?
Eh bien, les sots ont pour hypothèse que la société est entièrement composée de fous et cela constitue la base de leur satire. La sottie est donc souvent une pitrerie pleine d'allusions à l'actualité qui se produit sur des tréteaux installés sur la place du Bourg. À propos de ces tréteaux, je renvoie à une autre chronique consacrée au théâtre forain diffusée plus tôt cette année. C'est donc un divertissement essentiellement urbain auquel le public participe pleinement. Les comédiens incarnent tous les rôles, ils sont moines, soldats, juges, nobles, entraînés dans des scénettes joyeusement loufoques. il nous faut mentionner l'acteur Pierre Gringoire, qui aurait lui-même joué le rôle de la mère sotte et dont la devise est « tout pour raison, raison partout, partout raison ». Gringoire faisait partie des poètes faméliques, appelés aussi les sots, habillés comme des fous de cour dans des tenues bicolores. Ces sots sont souvent des jeunes gens de bonne famille, des étudiants désœuvrés.
Laissons les fous et les sots de côté et voyons ce qui se passe du côté de la moralité, qui semble a priori une histoire plus sérieuse.
En effet, la moralité est une représentation théâtrale qui met en scène des personnages allégoriques à caractère satirique ou éducatif, pouvant s'apparenter à ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'agit-prop. En tout cas, un spectacle plutôt didactique, intellectuel, parfois difficile à comprendre par le public. Les comédiens incarnent donc des vertus morales, des abstractions telles que la fatuité, la pruderie, la sottise, l'optimisme, etc. La moralité est souvent une satire virulente et politique de l'actualité. Bien sûr, cela ne plaît pas trop aux autorités et la censure se met en place. Toutefois, on peut citer le roi Louis XII qui, en 1498, déclare « Je veux qu'on joue en liberté et que les jeunes gens dénoncent les abus que l'on fait dans ma cour. »
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille flore, un des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le mort, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus.
Voilà un monarque bien éclairé, mon cher Pascal. Parlez-nous maintenant de la farce qui n'a rien ici de gastronomique.
Quoique, écoutez ce que nous dit le Robert à la définition farce. Le mot remonte au Moyen-Âge, vient du latin de farsus ou farsa. Il désigne bien ce avec quoi on farcit des légumes. Mais il s'agit aussi d'un intermède en langue vulgaire introduit dans des cérémonies religieuses, comme de la farce dans une viande. Selon André de Gaine, notre guide en la matière, la farce est l'ancêtre de la comédie de mœurs et de la comédie d'intrigue. Elle tient son nom de la notion de mélange de divers éléments, comme la satire romaine, ou bien de la comparaison avec le hachis et ses condiments. Vous voyez, la gastronomie n'est pas très loin. Une des farces les plus célèbres est celle du maître Patelin, qui narre les aventures d'un avocat, de sa femme Guillemette, de Guillaume le Drapier et d'un berger, qui lors d'un procès ne sait dire que « bé ». Cette farce, tout en octosyllabes bien tournées, a été jouée vers 1464 et n'a pas d'auteur connu. Ces spectacles amusants, très appréciés du public, se produisaient aussi sur des tréteaux, dans les foires, à la campagne ou en ville.
Fin de cette 17e édition de Radio Scénique, la première de cette deuxième saison. Merci à Pierre Le Tessier qui était notre invité. Il publie les didascalies en question chez Actes Sud Papier. Grâce à ce petit ouvrage, vous saurez tout sur ces petites notes, parfois en italique, qui illustrent certains de nos textes de théâtre. Merci également à Jérôme Vaquier, il était dans notre studio pour nous dire que enfin on pouvait voir à Paris La Clairière, la pièce de Stéphane Gioberti qu'il met en scène avec sa compagnie. Attention, pour le moment, c'est sur une seule date, c'est dimanche 14 septembre, ce dimanche donc, à 18h au Théâtre de Verdure dans le Bois de Boulogne. On vous mettra le lien de réservation en ligne. Comme on ne change pas, une bonne équipe. Je remercie mes fidèles Pascal Dutertre et Pierre Demkoff. Pascal à la chronique et Pierre à la programmation sonore et musicale. Un grand merci à tous les deux. Pour cette reprise dans nos tout nouveaux studios, nous avions aujourd'hui le plaisir d'avoir Renaud Poussin et Enrico Mastrogiovanni à la technique, merci à eux deux. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver en réécoute sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org. Pour cela, il suffit de vous diriger dans la rubrique podcast vers notre émission Radio Scénique. Ça y est, on reprend notre rythme bimensuel. On se retrouve donc le lundi 22 septembre à 10h sur l'antenne d'Aligre FM 93.1. En attendant, ne vous laissez pas dicter vos intentions par des didascalies malveillantes. Allez, Allez au spectacle, allez au théâtre, c'est là que ça bouge. Et allez au cinéma, bien sûr, ça tombe bien. Voici venue l'heure de Vive le cinéma sur Aligre FM 93.1. Dans quelques instants, à 11h exactement, on retrouve toute l'équipe en direct.
Dans ma guérite à mi-chemin, entre la cour et le jardin, sous mon minable projecteur, je suis le premier spectateur. Je suis souffleur. Pendant que ceux d'en haut s'agitent malgré leur rhume, leur bronchite, moi je relis pendant 2 heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul, d'ailleurs. Rodrigue n'est pas si mauvais, mais il joue vieux, il joue français. Quant à Chimène, elle ferait mieux de se faire faire un gosse ou deux. C'est pas sérieux. Tiens, si j'avais joué à la place de Don Diego ou de Don Gormas, on ne se serait pas ramassé à Épinal, au Colisée. En voilà assez. Moi, je veux brûler les planches. Je vais prendre ma revanche. Écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Grâce à moi, la troupe entière va enfin faire une carrière. Elle va être la première. Mais il y a ce con de producteur qui n'a jamais vu mon talent d'acteur. Bah, me fait mal de voir ce vieux serpent plus qu'aux trois quarts gâteux lancer. Rodrigue, as-tu du cœur? Comme il dirait, avez-vous l'heure? Je suis souffleur. Tiens, moi j'aimais rien qu'en soufflant beaucoup plus d'âme, plus d'élan. Il y a même des soirs où sans malice, les gens des premiers rangs frémissent. Ils crient presque bis. Moi je vais brûler les planches, je vais prendre ma revanche. Écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je vois déjà les critiques, des papiers dithyrambiques. Et personne ne s'explique comment ce con de producteur n'avait rien vu de mon talent d'acteur. Remarque que Don Diego boit beaucoup, et même plus que moi. Un jour il aura quelque chose de pas joli, le genre cirrhose. Il se repose. Il y a quelqu'un tout près de lui, quelqu'un qui l'aide et qui l'oublie, qui a envie de prendre l'air, de faire le chemin à l'envers, de voir la lumière. Et qui va brûler les planches, qui va prendre sa revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je me vois à l'avant-scène devant le public que j'aime, saluant, et je vois même ce pauvre con de producteur venir me dire qu'il attendait mon heure.
C'est-à-dire qu'il est con, il est con, celui-là. On va voir, d'accord. Allez, où j'en suis là, dans le deuxième acte.
Ah, mais attendez une seconde.
Oui, j'arrive, oh là là. La fonceur.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.